des jeunes, Radio Campus, parole des jeunes.
Parole de jeunes sur Radio Campus 88.3.
L'association Famille Rurale a mis en place un projet intitulé Parole de jeunes pour permettre à des adolescents d'être éduqués à la citoyenneté et de comprendre le sens de ce mot et les valeurs qu'il porte. C'est ainsi que Radio Campus a permis à des élèves de 4 maisons familiales et rurales et à des jeunes d'une FRMJC d'accéder à l'expression radiophonique, d'apprendre à débattre et à s'exprimer en respectant les règles de la liberté d'expression et en utilisant une démarche journalistique. Engagement, solidarité, laïcité, vivre ensemble. Ces termes ont été abordés puis développés au gré d'interviews, de tables rondes, entre jeunes ou avec des représentants locaux d'associations, des élus locaux. Formuler une opinion, argumenter, respecter la vie d'autrui sont des savoir-être et des savoir-faire nécessaires à la construction d'une identité citoyenne. C'est pour cela que le projet a commencé en décembre 2017 par une initiation à la citoyenneté. Vous entendrez aujourd'hui ces paroles de jeunes enregistrées dans les maisons familiales et rurales de Chingy, Férolles, Sainte-Geneviève-des-Bois et Accou, ainsi qu'à la FRMJC de Neuville-aux-Bois. Ce projet a été initié par Famille Rurale et a été mis en place en partenariat avec les maisons familiales et rurales, Radio Campus, la Ligue de l'enseignement, la FRMJC et avec le soutien financier du Conseil départemental du Loiret, de la région Centre-Val-de-Loire et de la Direction départementale de la cohésion sociale.
Alors pour vous, la meilleure définition que vous avez trouvée pour la France, c'était laquelle ?
Une nation fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité.
Alors pourquoi vous avez choisi cette définition ?
Aujourd'hui, nous accueillons Madame Barrault, nouvelle maire d'Accou depuis le 14 décembre 2017.
Bonjour Madame Barrault, nous sommes ravis de vous accueillir au sein de la MFR du Petit Vray et merci d'être là.
Bah écoutez, moi je suis ravie d'être là parce que je pense que venir dans l'école de sa propre commune, bah, c'est toujours intéressant et d'avoir affaire aux jeunes, c'est toujours une bonne expérience.
Donc vous venez de succéder à Monsieur Marc Godet qui est maintenant président du conseil départemental.
Exact, oui.
Vous faites partie du conseil municipal depuis 2008 et vous êtes deuxième adjointe depuis 2014.
C'est tout à fait exact aussi.
Vous êtes par ailleurs retraitée de la coopérative agricole de Pithiviers depuis quelques mois.
Oui, alors ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, puisque les informations que vous avez eues datent de 3 mois, je dirais. Donc ça fait un petit peu plus d'un an que je suis en retraite et c'est un petit peu pour ça que j'ai accepté le poste de maire.
Madame le maire, nous allons vous poser quelques questions pour mieux vous connaître, si vous voulez bien.
Allez-y.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles études avez-vous fait auparavant ?
Alors, j'ai fait des études assez classiques. Je suis allée jusqu'au BEPC et ensuite, j'ai intégré un lycée professionnel pour faire de la biologie-biochimie. J'étais assez intéressée par le travail en laboratoire. Donc, j'ai fait un bac pro de biologie. J'ai commencé après à travailler dans un laboratoire d'analyse médicale. C'était un petit peu mon souhait.
Ok, merci.
Quel a été votre parcours professionnel ?
Donc, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai intégré un laboratoire d'analyse médicale et ensuite, je suis passée dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire que j'ai travaillé à la coopérative agricole, toujours dans un laboratoire, mais là, pour analyser plus des graines et des choses un petit peu moins humaines, je dirais, parce que j'ai eu des soucis de santé qui m'ont un petit peu obligée à quitter le laboratoire médical pour ne plus être en contact avec des gens qui étaient malades. Donc une petite déviation sur ma carrière pour raison médicale. Et après, j'ai fait toute ma carrière dans la coopérative agricole de Pithiviers. J'y ai travaillé 35 ans et jusqu'à ma retraite. Donc.
Quand vous étiez plus jeune, avez-vous un jour pensé être maire ?
Ah non, jamais. Même jusqu'à il y a quelques mois, je n'avais pas imaginé être maire. Pour moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai succédé à Marc Godet qui est parti un petit peu du jour au lendemain pour accéder à un poste un petit peu plus important. Et ce n'était pas prévu. On ne savait pas d'abord qu'il allait être élu, parce qu'on ne savait pas que le président du conseil départemental allait être élu sénateur. Et donc ensuite, on ne savait pas que le vice-président allait devenir effectivement président. Et la loi sur le non-cumul des mandats nous oblige maintenant à remplacer au milieu d'un mandat les personnes qui sont mutés ou qui s'en vont. Ça peut arriver aussi pour un départ qui soit volontaire ou non volontaire. Donc, un petit peu par hasard, pour remplacer Marc qui partait et qui, d'un seul coup, a cherché un ou une remplaçante.
Quelles ont été vos motivations pour devenir mère ?
Alors, les motivations pour devenir mère, c'est ce que je vous disais. Comme c'est arrivé par hasard, c'est pas franchement des motivations pour devenir mère. Mes motivations, elles étaient plutôt pour m'occuper de la commune. Donc, je les ai eues en rentrant au conseil municipal. Envie de servir la commune, envie de faire des choses pour la faire avancer. Donc, un premier mandat en tant que conseiller municipal pour savoir ce que c'est que le travail dans une commune. Ensuite, en tant qu'adjoint, pour progresser un petit peu. Et puis, la place de maire, parce qu'elle m'a été proposée par le maire lui-même.
Avez-vous conservé votre ancien métier ?
Alors non, puisque je suis retraitée. Mais je pense que si j'avais été encore en activité, je n'aurais pas accepté le poste de maire. Je serais restée adjoint, parce que le poste de maire nécessite quand même un temps à consacrer qui est suffisamment important pour que ce soit difficile de concilier avec un métier à temps plein, en tout cas, à mon avis, malgré qu'il y en ait qui le fassent et qui y arrivent. Mais après, c'est un choix de vie aussi, où on veut consacrer tout son temps, où on veut se garder un petit peu de temps pour soi.
Réussissez-vous encore à avoir du temps libre en dehors de votre métier ?
Alors ben, c'est un petit peu la suite de ce que je viens de dire. Le temps libre, on en a si on s'en consacre. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire « j'ai pas le temps de faire les choses » ou alors on se dit « je prends le temps de faire les choses ». Et dans ces cas-là, c'est un petit peu abordé différemment. Moi, je prends le temps de faire des choses. Là, par exemple, cet après-midi, je m'en vais passer un week-end avec mon conjoint et je laisse tomber le reste. Je me dis « j'ai des adjoints qui sont là pour m'aider ». Donc, je délègue aux adjoints et je me dis « je prends du temps pour moi ». Parce que dans ma conception des choses, il faut garder un petit peu de temps pour soi. Après, il y a celui qui se laisse déborder par le travail, que ce soit un travail de mère ou un autre travail. On peut se laisser déborder en se disant « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Moi, je dis « je prends le temps ».
Quels sont les avantages et les inconvénients quand on est mère ?
Alors, je pense qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais il faut savoir que quand on devient mère ou quand on devient président d'une association ou même actif dans une association, on s'engage. Donc, ça veut dire qu'on a envie de le faire. Si on n'avait pas envie de le faire, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas le faire du tout. Donc, si on a envie, ce n'est pas forcément des inconvénients. Mais c'est des contraintes, en tout cas. Les avantages, ben, c'est de se dire je sers ma commune ou je sers mon association. J'essaye de me rendre utile, j'essaye de faire avancer les choses. Et ça, pour moi, ce sont des avantages. Surtout quand on y arrive.
Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Barrault. Nous vous invitons à présent à débattre avec nous de la notion de citoyenneté.
D'accord, allons-y.
Les présentations faites, nous vous invitons à discuter avec nous autour de la notion de la citoyenneté avant 18 ans.
Est-ce que nous avons les mêmes droits avant 18 ans ?
Alors, vous avez tous des droits, qu'on ait 18 ans ou qu'on ne les ait pas, on a les mêmes droits, mais aussi surtout les mêmes devoirs. C'est-à-dire qu'on doit, dans la vie, savoir que les droits, ce sont des choses importantes, mais qu'à côté des droits, il y a aussi des devoirs. Et qu'on ait 10 ans, 13 ans, ou 20 ans, ou 50 ans, ou 70 ans, on a tous des droits qui sont différents parce qu'on n'a pas les mêmes envies, parce qu'on n'a pas les mêmes choses à faire dans la vie. Mais on a tous des droits et des devoirs.
Est-ce que nous pouvons faire partie d'une association avant 18 ans ?
Alors, vous avez le droit de faire partie d'une association. Par contre, vous n'avez pas le droit d'exercer certains postes. Alors, ça dépend peut-être des associations. Je ne connais pas toutes les lois à ce sujet-là. Il faudrait à vous de vous renseigner si vous avez besoin. Mais je ne pense pas qu'on puisse être président d'une association avant 18 ans. Pas plus qu'on ne doit avoir le droit d'être trésorier. Mais par contre, vous pouvez être dans une association et y amener vos idées, vos mains, votre bonne volonté. Et ça, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté, justement, et puis d'accord avec les présidents et membres d'un bureau d'association.
Est-ce qu'avant 18 ans, nous devons quand même respecter des lois ?
Bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour respecter les lois. Donc, normalement, ce sont vos parents qui vous apprennent ce qui est autorisé et pas autorisé, puisque quand vous êtes jeune, vous ne connaissez pas forcément toutes les règles qui peuvent exister. Il existe des règles au niveau de l'État, comme il en existe dans une famille, comme il en existe dans une école ou dans une association, qu'elle soit sportive ou autre. S'il n'y avait pas de règles dans la vie, il n'y aurait pas de discipline et on ne pourrait pas s'entendre. Ça serait n'importe quoi, en fait.
Du coup, même avant 18 ans, nous pouvons être punis par la loi.
Bien sûr. Alors, les punitions ne sont pas les mêmes quand on est majeur ou quand on est mineur. Mais à partir de 13 ans, vous pouvez être pénalement responsable. Financièrement, c'est surtout les parents qui sont responsables. Mais vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Il y a des délits qui sont graves et qui sont punis par la loi. Donc, les punitions n'étant pas les mêmes, vous n'irez pas forcément en prison, mais vous pouvez vous retrouver dans une maison d'éducation ou à faire des travaux d'intérêt généraux. De toute façon, il y a des peines qui sont prévues aussi pour les mineurs.
Mais est-ce que les peines sont forcément justifiées? Comment expliquer?
Alors, justifiées, ce sont des juges qui en débattent et c'est eux qui décident, comme pour les adultes, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire... celui-là, il est coupable de... Il y a une enquête, il y a toujours... Comme pour les adultes, il y aura forcément et une enquête, et des débats, et des gens qui ne seront pas tout seuls et qui vont débattre de ce qui s'est passé et qui vont décider si oui ou non il y a une peine et quelle sera la peine.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase « La liberté s'arrête là où commence celle des autres » ?
Tout à fait. Réfléchissez vous-même si, par exemple, vous avez envie de... Je ne sais pas, moi, de dire... Je vais aller raconter des bêtises sur mon voisin. Imaginez que ce soit votre voisin qui raconte des bêtises sur vous. Vous allez réagir comment? Eh bien voilà. Donc dites-vous le jour où vous allez faire une crasse, entre guillemets, à quelqu'un. Si cette crasse, elle m'était faite à moi-même, comment je réagirais?
Vous ne seriez pas contente.
Voilà. Donc dans le coup, c'est votre liberté qui s'arrête là où la mienne commence. Donc c'est un des exemples qu'on peut donner. Il faut toujours se poser la question, quand on fait quelque chose à quelqu'un, si c'était à moi qu'on le faisait, qu'est-ce que j'en penserais? Et là, je pense qu'on voit les choses autrement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec qu'on ne peut pas forcer à faire quelque chose qui n'a pas imposé par la loi?
Oui, forcément. À partir du moment où c'est interdit, on ne doit pas vous imposer ça. Alors, il y a quelquefois des contraintes. Bon, c'est pas facile à expliquer, mais des gens qui vont essayer de vous faire faire des choses à leur place, éventuellement... À vous d'avoir la force de résister et de dire non, j'ai pas le droit de le faire, je le fais pas. Même si c'est pas toujours facile, on n'a pas le droit de vous y obliger. Je dis pas que c'est pas facile à respecter régulièrement, mais c'est interdit. Donc à partir du moment où c'est interdit par la loi, personne ne peut vous imposer de le faire.
D'accord, merci.
Chaque citoyen contribue à l'élaboration des lois grâce aux représentants élus.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le droit de vote. Alors, vous ne l'avez pas avant 18 ans, mais avant 18 ans, vous avez le droit de vous faire une opinion sur ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez peut-être pas d'idées politiques, mais vous avez des idées quand même. Ce n'est pas parce qu'on a moins de 18 ans qu'on n'a pas des idées. Et vos idées, bah, vous pouvez les transmettre à vos parents, vous pouvez dire à vos parents ou à des amis autour de vous ce que vous pensez. Et quand vous aurez le droit de vote, eh bien, il faudra aller voter. Parce que celui qui ne vote pas, il ne peut pas se permettre après de dire « Ah oui, mais celui-là, il fait n'importe quoi. La loi, elle est nulle. » Vous votez pour des personnes qui vont élaborer les lois. Donc celui qui ne vote pas, il n'a pas grand-chose à dire après. Il ne peut pas se dire « Moi, je ne suis pas d'accord puisque je n'ai pas été donné mon vote à quelqu'un dont je partage les idées. » Donc il faut voter. Parce qu'on participe comme ça à l'élaboration des lois.
Mais pourtant, il y a quelques mineurs qui veulent quand même participer, à voter, mais ils ne peuvent pas voter, malheureusement.
Alors, parce qu'on considère qu'avant 18 ans, les gens ne sont pas forcément aptes à bien analyser les situations. Ce n'est pas valable pour tout le monde. Il y a des jeunes de 18 ans qui sont plus mûrs que d'autres. Il y en a à 20 ans qui ne seront pas capables non plus de dire... pour qui ils vont aller voter et qui, ne s'intéressant pas à la politique, ne vont pas comprendre pour qui ils votent, pourquoi ils votent. Ils vont peut-être voter comme les parents ou comme le copain ou voter blanc en se disant « je fais mon devoir de citoyen, mais comme je n'ai pas d'idée, je ne l'exprime pas ». Mais le droit de vote, c'est quelque chose qui a été obtenu et qu'il ne faut surtout pas lâcher. Parce que le jour où on n'aura plus le droit de donner son avis, eh ben, il se passera des choses qui seront... imposé, sans avis.
La France ne serait plus libre, entre parenthèses.
Elle le serait moins, en tout cas. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour se révolter. Et pour, comme ça s'est passé, un exemple le plus flagrant, je dirais, c'était mai 68. Les jeunes sont descendus dans la rue, se sont révoltés, ont été criés leur mécontentement, et ils se sont fait entendre. Et il n'y avait pas que par le vote. Donc il faut avoir des opinions, il faut s'intéresser à ce qui se passe autour de soi et puis se dire, ben, moi j'ai le droit aussi de donner mon avis. Tant que je n'ai pas le droit de le donner par le vote, je le donne autrement. Mais le jour où j'aurai le droit d'aller voter, eh ben, j'irai voter et je dirai ce que j'en pense. D'accord. Alors on ne dit pas individuellement ce qu'on en pense, mais on vote pour quelqu'un qui va avoir les idées qu'on partage le plus. On ne partage jamais totalement les idées de quelqu'un, mais on a des tendances vers... pas forcément un parti, mais vers une personne qui va avoir des idées qui seront plus concordantes avec les nôtres qu'un autre. Non, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Bah si, je suis d'accord, mais après, c'est la personne en qui on peut voter peut dire beaucoup de choses qui nous donnent envie de voter pour lui et qu'au final, il ne passe rien.
Oui, ça c'est vrai. C'est une des failles de, de la après, politique et du vote, où effectivement, il y a des programmes électoraux et puis... Et ben après, on se dit, ah oui, il avait promis des choses qui ne sont pas arrivées. Alors, il faut se dire aussi que quand on est en campagne, on peut avoir des idées et que quand on est au pouvoir, quand on parle de l'État, et ben on ne peut pas réaliser forcément tout ce qu'on avait décidé. Même au niveau d'une commune, moi, je vois maintenant que je suis maire et que j'examine un budget, des idées, j'en ai plein pour améliorer ma commune. Seulement, mon budget, il ne suit pas. Donc après, il faut des priorités. Il faut se dire, ah ben, je vais commencer par refaire une route parce que c'est plus important pour la sécurité avant de refaire un terrain de sport. Parce que même si c'est plus intéressant pour les jeunes, ben, je vais faire d'abord en sorte que la sécurité soit présente avant de faire le loisir.
Mais peut-être que le loisir d'un village pourrait développer le nombre d'habitants dans le village.
Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des priorités et que les priorités, après, elles sont limitées par les budgets.
D'accord.
C'est un peu à ça que servent nos impôts. Donc, des fois, on ne comprend pas pourquoi on augmente les impôts. Bon, il y a des failles, forcément. Hein. Mmh. Je pense que vous pourriez tomber dedans, même à votre âge. Mais le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et sans argent, on ne peut pas réaliser tous les projets qu'on a pu énoncer, même dans une campagne électorale. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même avoir son idée et voter pour quelqu'un qui nous est le plus proche, en tout cas.
D'accord.
Mais surtout, allez voter. Exprimez-vous.
Est-ce que nous avons le droit d'exercer notre religion du moment que ça ne gêne pas les autres, même avant 18 ans ?
Alors en France, oui. C'est pas partout comme ça, mais en France, vous avez le droit d'exercer n'importe quelle religion. Par contre, il y a des règles. À partir du moment où nous sommes dans un pays laïque, il y a des signes que vous ne devez pas montrer. Il y a des choses qui ne doivent pas être apparentes, qui ne doivent pas gêner les autres. Donc il faut faire attention, justement. C'est un peu comme la liberté, se dire, il ne faut pas que ça gêne mon voisin. J'ai le droit de penser ce que je veux, j'ai le droit d'écrire ce que je veux, mais il faut que je fasse attention à celui qui est à côté de moi, pour qu'il ne soit pas blessé, qu'il ne soit pas heurté par mes idées ou mes sentiments. Mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez, d'exercer une religion telle que vous la souhaitez. En France, c'est autorisé.
Nous sommes libres de nos pensées, de nos opinions, tant que nous n'allons pas à l'encontre de la loi.
Oui, bon, c'est un petit peu ce dont on vient de débattre jusque-là. Vous avez le droit d'avoir vos idées, même si vos idées ne sont pas vis-à-vis de la loi les plus sereines, mais il ne faut pas aller contre la loi dans les actes, en tout cas.
Du coup, on est libre, mais avec certaines limites quand même.
Ben, les limites, c'est la loi. Et la loi, c'est justement des règles que vous pouvez rencontrer n'importe où. On les rencontre dans les communes comme on les rencontre dans la famille dès le départ. S'il n'y avait pas de loi, s'il n'y avait pas de limite, si chacun faisait ce qu'il voulait, eh ben, on ne pourrait pas s'arrêter. On ne saurait pas qui a tort, qui a raison. On ne saurait pas si on ne fait pas du mal à quelqu'un à côté de nous. Il faut des règles pour... Même pour vous les jeunes, si on ne vous mettait pas des règles et des barrières, vous seriez perdus au bout d'un moment. Vous ne sauriez pas ce qui est bien, ce qui est mal. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous impose des règles que vous transgressez, de toute façon, un jour ou l'autre. Mais quand vous les transgressez, on vous remet sur le droit chemin. On vous dit, ah non, non, là, il y a une loi qui dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut respecter son voisin, il faut respecter son environnement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter. Parce que pour moi, être citoyen, ce n'est pas forcément avoir des droits, c'est surtout avoir des devoirs. Il faut toujours se demander, oui, j'ai le droit de faire ça, mais qu'est-ce que je dois faire aussi ? on se pose pas toujours les bonnes questions. C'est-à-dire que le devoir, c'est quelque chose d'important aussi. Peut-être plus que le droit.
Qu'est-ce qu'être citoyen avant 18 ans ?
Être citoyen, c'est un état d'esprit. C'est dire, je vis dans une communauté, je vis dans une cité. Je suis citoyen parce que je vis dans une cité, mais dans un pays. Et je dois faire en sorte que ce pays fonctionne bien. Être citoyen dans un village, par exemple, ça va être respecter son environnement, son voisin. C'est dire, si je fais une petite fête le samedi soir, est-ce que je vais jeter mes canettes par terre alors qu'on m'a mis une poubelle à 50 mètres ? Non, je vais aller jusqu'à la poubelle et je vais mettre mes poubelles dedans. Si je promène un chien, que je mets une crotte à côté, là, ben, je vais la ramasser. C'est faire en sorte que son village reste propre et puis agréable à tous. Parce que si tout le monde fait n'importe quoi, et ben après, le village, il deviendra plus agréable. Enfin, le village ou la ville, hein, puisque nous, on vit dans un village, mais ça peut être pareil dans une ville. Et puis de se dire que si on veut vivre ensemble tous de façon agréable, il faut que chacun y mette du sien.
D'accord. Oui. Mais vu qu'en ce moment, rien n'est bien, entre parenthèses, il y a du bien comme du mauvais, qu'est-ce qui serait bien de changer pour que ça soit encore mieux ?
Alors ça, c'est à vous de l'imaginer, justement. Vous vous dites, dans un village, il y a des choses qui ne sont pas bien. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bien, par exemple ? Dans votre village, ici, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Si vous vous dites, par exemple, mon village, il est sale.
Bon, ça serait mieux qu'il soit un peu plus propre.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il soit plus propre ? Il ne faut pas vous poser la question, il ne faut pas vous dire, mon village, il est sale. Il faut vous dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon village, il soit propre ? Il faut essayer de réagir différemment en se disant, est-ce que ce n'est pas à moi de faire quelque chose puisque les autres ne font rien. Si on est le premier à faire quelque chose et à se dire « Ah ben moi, je vais essayer de faire avancer les choses. » Quand on s'investit, comme moi, dans une fonction de maire, par exemple, on se dit « Je le fais pour essayer de faire avancer mon village, pour essayer d'amener quelque chose. » Mais vous, individuellement, en tant que citoyen, vous pouvez amener quelque chose à votre famille, à votre village, à votre école, à vos amis. Et dites-vous « Qu'est-ce que je pourrais faire, moi ?» pour améliorer une chose que je ne trouve pas bien. C'est ces questions-là qu'il faut que vous vous posiez. Et après, à vous de trouver les bonnes réponses. Vous êtes acteur aussi de ce qui se passe dans votre ville, de ce qui se passe dans votre vie aussi. Il ne faut pas attendre toujours que ce soit les autres qui décident pour vous.
C'est sûr, mais si on commence à faire nous-mêmes le premier pas, le problème, c'est que, comme on dit, l'union fait la force. Donc, c'est mieux d'avoir plusieurs personnes qui soient là et qui réfléchissent en même temps.
À vous de dire... j'emmène du monde avec moi et j'essaye. Vous n'y arriverez pas forcément du premier coup. Hein. Peut-être que vous allez vous planter en disant « Ah ben j'ai essayé, mais personne ne m'a suivi. » Ben, c'est pas grave, la fois d'après, on recommence. Puis peut-être qu'il y en aura un qui va suivre, et puis après, il y en aura deux qui vont suivre. Puis après, il y en a un qui vont dire « Ah ben finalement, il n'avait pas tort, il a réussi. »
D'accord.
En fait, il faut faire comme du bouche à oreille. Il faut parler aux gens et puis les solliciter pour venir aider et tout.
Oui, voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter à un échec. C'est ça que je voulais dire tout de suite. C'est que peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire « Oui, enfin bon, par exemple, si on parle des déchets dans un village, qui vont vous dire « Oui, enfin, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas à moi de le ramasser. » Donc, si tout le monde se dit ça, eh ben, on passe à côté. On passe à côté des choses. On peut passer à côté des gens aussi en se disant... Moi, je vais vous raconter une chose que c'est peut-être complètement à part, mais qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière, j'étais à Paris et il y avait des travaux. Et je me suis tordue la cheville et je suis tombée. Je me suis affalée par terre, ce qui peut arriver. Et les gens sont passés à côté de moi. Il n'y en a pas un qui m'a demandé « Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que je peux vous aider à vous relever ?» Ben, moi, je trouve ça inadmissible. Les gens ne sont plus citoyens. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'avoir quelqu'un, même que vous ne connaissez pas, qui tombe à côté de vous et de vous dire « Oh, ben, elle est tombée, elle se débrouille. » Pour moi, ce sont des choses aberrantes. Et être citoyen, c'est déjà se préoccuper de son voisin, se préoccuper même de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais se dire « Si moi, je fais rien, personne ne fera rien. » Donc, allons-y. Même si on doit se moquer de vous, même si on doit dire « Ouais, bah, qu'est-ce que tu as fait ?» Non, c'est important d'être là les uns pour les autres.
Donc, il n'y a plus cette part de fraternité, entre parenthèses
Elle existe encore. Je pense que dans nos villages, elle existe encore. Dans les villes, un peu moins.
Dans les villes, ouais.
Ne laissons pas les villes nous polluer, je dirais.
Et pourtant, ils sont bien là et ils s'agrandissent encore plus.
Oui, mais chacun peut faire quelque chose. Quand on parle écologie, par exemple, on peut dire en écologie, il faut trier les ordures, il faut faire en sorte que les choses soient plus propres. Tout le monde est d'accord avec ça.
Mais personne ne le fait,
s'il n'y en a pas un qui commence, où est-ce qu'on va ?
Trop dans le mur ?
Voilà, droit dans le mur, exactement. Donc à chacun de dire, eh ben moi j'essaye de faire quelque chose.
Et pourquoi on ne mettrait pas des petites amendes ou des petites choses comme ça pour faire...
Oui, alors...
Voilà, pour...
C'est paradoxal, parce que là, vous allez dire, il faudra mettre une amende, donc ça veut dire qu'il faut être derrière chaque citoyen et le surveiller. Oui. Et à côté de ça, quand vous aurez 18 ans, que vous aurez une voiture, bientôt la limitation de vitesse sera à 80 km/h, vous allez vous faire choper à 85 et vous allez vous prendre une amende, et ben, vous n'allez pas le prendre bien. Hein. Alors si on vous met une amende pour une petite canette qui est par terre, ou parce que... vous n'allez pas comprendre. Donc, l'amende, est-ce que c'est la solution ? Moi, je ne suis pas persuadée.
Non, mais sinon, il faudrait faire des forums ou faudrait
de l'éducation, en tout cas. Oui, oui. Alors, ce que vous faites là, par exemple, pour essayer de savoir en invitant des personnes pour en débattre, déjà, c'est bien. Ça veut dire que vous pouvez avoir envie de comprendre ce qui se passe et de changer les choses. Donc, déjà, c'est un bon pas en avant. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut qu'après ça, vous puissiez vous dire, bah oui, qu'est-ce que j'en retire de cette manifestation qu'on fait là ? Est-ce que je me dis, bon, bah, ça y est, on a fini, on a eu éventuellement une note, je ne sais pas si vous êtes noté sur...
Non.
Mais il faut exploiter ce que vous êtes en train de faire là et vous dire, voilà, j'en ai retiré une leçon, tout ne va pas être rose demain, et tout ne sera pas rose après-demain non plus. Mais chacun peut amener sa pierre à l'édifice et chacun peut dire, moi, bah, je suis content parce que j'ai essayé de faire quelque chose. Si on n'essaye rien, on n'arrive à rien. Sachant un peu nous révolter aussi contre les gens qui ne veulent plus rien faire, qui ne veulent pas s'investir.
Qu'ils attendent que ça vienne à eux, oui, tout voilà. Cuit dans le bec.
Il faut pas aller vers l'assistanat, il faut se prendre en main chacun.
Donc ça veut dire qu'en France, là je parle généralement, faudrait enlever ou changer quelque chose pour éviter que chaque personne qui profite un petit peu du système se mette à...
Vous parlez de l'assistanat, là.
Je pense, oui.
Oui. Alors, ça, c'est un débat un petit peu plus difficile parce que on ne peut pas laisser les gens qui sont dans la pauvreté ou dans la misère, qu'elle soit financière ou morale, on ne peut pas les laisser tout seuls. On est dans un pays où, justement, les droits de l'homme sont importants. Donc, si on n'est pas là pour les aider, il faut savoir que la barrière entre l'aide et l'assistanat peut être facilement franchie. Et. Il faut faire attention à ça. Mais les lois disent qu'on a le droit d'aider les gens. On ne peut pas. Enfin, par exemple, un maire ne peut pas dire moi, celui-là, je l'aide et celui-là, je ne l'aide pas. De quel droit je pourrais me dire celui-là et pas l'autre ? Moi, je me fie à des textes qui vont me dire en fonction de telle et telle situation, j'aide ou je n'aide pas. Et c'est l'État qui établit ces règles que moi, je vais suivre. Et vous, vous allez suivre les règles qui ont été établis d'abord par l'État, puis par la région, puis par le département. En fait, toutes ces lois viennent du gouvernement et elles arrivent jusqu'aux citoyens et chacun doit les suivre. L'assistanat, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien, mais il ne faut pas non plus enlever l'aide. Il faut rester humain, je dirais.
Je conseille de ne pas enlever l'aide, c'est sûr, parce que tout le monde, au bout d'un moment de sa vie, a besoin d'aide, mais... Le problème, c'est qu'on donne une main à une personne qui a besoin d'aide. Le problème, c'est qu'il va en profiter. Il va tellement en profiter qu'il va nous manger le bras. Et puis après, ça va continuer.
Voilà, c'est vrai, ça existe. Mais il faut se dire qu'à côté de ça, il y a des gens qui, eux, ont réellement besoin d'aide. Mmh. Et comme on fonctionne avec des lois pour que ce soit équitable, si on enlève cette loi sur l'aide à la personne, on va supprimer un assistanat... passif, je dirais, mais on va aussi arrêter une aide pour les gens qui en auraient vraiment besoin. Et cela, il ne faut pas les laisser sur le côté de la route.
Mais est-ce qu'on aide vraiment les personnes qui sont vraiment en besoin d'aide ?
Moi, je peux dire que dans les petites communes, oui.
Dans les petites communes, parce qu'il n'y a pas...
Parce qu'on connaît nos concitoyens, justement. Oui. Donc on sait ceux qui sont effectivement dans les gros problèmes. On peut être dans des gros problèmes ponctuellement.
C'est sûr.
Et s'il n'y a personne pour nous aider à nous relever, eh ben, c'est beaucoup plus difficile.
Je voulais revenir sur ce que Chloé a dit tout à l'heure pour les petites amendes. Je suis un peu d'accord avec elle parce que ça ne choque pas les personnes de voir jeter, par exemple, des papiers par les fenêtres des voitures. Mais ils sont capables de mettre des amendes à à des mineurs qui font juste une roue arrière dans un village, en vélo. Oui.
C'est vrai qu'on peut trouver qu'il y a des injustices sur certains endroits. Je n'ai pas souvenir que pour une roue de vélo, on puisse avoir une amende, mais si. Alors là, c'est ce qu'on peut dire, pas vu, pas pris. Quand on est vu, on est pris. On peut prendre des risques en se disant, je transgresse des lois. Il y en a qui passent toujours à travers. Et il y en a qui malheureusement, se font prendre pour des petites choses, alors que d'autres ne se font pas prendre pour des délits qui sont plus importants. Ça paraît injuste, ça l'est certainement, mais la gendarmerie, comme la police, ne peut pas être derrière chacun. Et c'est vrai que pas vu, pas pris, mais quand on est vu, on est pris. Moi, j'ai un fils qui était à l'école et quand il a traversé la pelouse, il s'est pris des heures de colle. Et il est venu en me disant « Ah bah oui, mais les autres, ils le font aussi, puis ils n'ont rien. » Bah, je dis « Ils ne se sont pas fait prendre, tant mieux pour eux. Tu t'es fait prendre, bah, tant pis. » C'était interdit.
Est-ce que vous avez quelques droits envers les amendes?
Alors, normalement, le maire a le droit de mettre des amendes, effectivement. Il faut que ce soit sa volonté. Moi, je ne souhaite pas mettre d'amende à mes concitoyens. Donc, si je trouve qu'il y a un délit dans la commune, je vais appeler des autorités supérieures, comme la gendarmerie, si c'est pour des voitures, ou éventuellement la police. Mais moi, je ne souhaite pas mettre d'amende. Je préfère que, par rapport au maire, il y ait une approche un petit peu plus de conciliation. Et je pense que la gendarmerie peut être là pour mettre des amendes, bien qu'elle ne soit pas là que pour ça. Je pense que vous verrez le petit journal qui paraît sur la commune. La gendarmerie va aller au contact des gens dans les jours qui vont venir pour aller leur expliquer ce qu'ils font, leur démarche, pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas là que pour être là dans la répression, ils sont là aussi pour vous protéger. Et ça, on oublie quelquefois que les autorités sont là aussi pour votre protection. Il ne faut pas penser qu'aux mauvaises choses.
On remarque que les autorités, ils sont là pour nous protéger, on est d'accord. Mais des fois, ils nous donnent des amendes alors que eux-mêmes, ils ont tort.
Alors, si on vous donne une amende, en général, c'est que vous avez fait un délit.
Mais des fois, eux-mêmes, les policiers, nous contredisent alors qu'ils savent qu'ils ont tort.
Alors, je ne sais pas, vous avez un exemple particulier parce que... Normalement, vous n'avez pas d'amende si vous n'avez pas fait de délit particulier. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec la décision.
Alors, une fois, en fait, dans ma commune, il y a une place de parking que personne ne peut se mettre dessus. Enfin, c'est juste parce qu'il y a le bus qui arrive par là. Et puis, du coup, mon père, il se prend plein d'amendes quand il se gare là. Mais un jour, la police, elle s'est arrêtée là. Et puis, elle est partie prendre un café. Du coup, il les a pris en photo, mais...
Oui, on voit quelquefois des photos comme ça. Donc, même les gens qui soient de la police ou de la gendarmerie sont quelquefois en faute. Ils devraient être aussi verbalisés parce que pour eux, la loi, s'ils doivent la faire appliquer, ils doivent aussi la respecter. Alors effectivement, ils ne vont pas se mettre une amende à eux-mêmes. Enfin, moi, j'en ai jamais vu qui faisaient ça, mais il pourrait y en avoir d'autres qui viennent en disant bah, eux aussi, ils ont droit à leur amende.
Maintenant, à chaque fois qu'ils se font arrêter, bah, ils montrent la photo. Donc...
Oui, alors après,
comme ça.
Là, on va rentrer dans des cas particuliers où, effectivement, si on estime qu'on a des passe-droits, mais on ne devrait pas avoir de passe-droits. Ouais. Quand on est là pour faire respecter la loi, on doit déjà montrer l'exemple.
Mais comment expliquer? En fait, l'erreur déjà est humaine, pour commencer. Et puis, bon, je pense que les gendarmes, policiers, tout ce qui est force de l'ordre, et même nous, ne sont pas parfaits. Donc... Comment expliquer ça?
Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on ne doit pas respecter la loi.
Oui.
Donc le jour où ça a été évoqué tout à l'heure, il faudrait mettre des amendes pour même des petits délits. Bah, si vous avez fait une erreur, mais qu'elle est contre la loi, et que vous prenez une amende, eh bah, c'est tant pis, il fallait respecter la loi. Après, vous vous êtes dit, bah, effectivement, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait attention, je n'avais pas vu. Mais la prochaine fois, vous y ferez plus attention parce que vous avez été puni par une amende.
Donc c'est peut-être mieux de mettre des amendes, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses quand même.
Bah disons que quand il y en a une, eh bien, il faut savoir l'accepter en se disant bah « oui, j'ai tort, je n'étais pas au bon endroit, je n'ai pas fait la bonne chose. Mais tant pis, je me suis fait prendre, je paye et la prochaine fois, je ferai attention. »
Alors moi, j'ai une question complètement à part. Est-ce que, par exemple, dans votre village, dans votre commune, est-ce que vous avez une association où il y a des jeunes qui font partie de votre association ?
Alors moi, je me suis occupée jusqu'à il y a 2 mois et demi d'associations sportives. C'est-à-dire que j'ai présidé et j'ai été trésorière et secrétaire dans des associations de danse et de tennis de table. Il y a des jeunes qui s'investissent. Donc moi, en tant que présidente du tennis de table, j'ai fait former des jeunes qui n'avaient pas 18 ans pour qu'ils deviennent animateurs, pour qu'ils aident les autres enfants à progresser. Donc on peut s'investir, même quand on n'a pas 18 ans, dans une association. On n'a pas le droit au poste clé, mais on a le droit de venir et de dire, ben moi, est-ce que je peux me rendre utile ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et il y aura toujours un président de club ou une présidente qui vous dira, ah ben oui, nous, on peut avoir besoin de quelqu'un. Ça ne sera pas forcément le poste que vous visez au départ, mais ça sera un pied dans le bénévolat, un pied dans l'aide aux autres.
Je reviens au sujet de tout à l'heure sur les lois. De toute façon, que ce soit nous ou les gens de toute la France, c'est impossible de respecter les lois toutes.
Alors, dire que c'est impossible, là, je vais dire que je ne suis pas d'accord. On n'est pas forcément d'accord avec toutes les lois, mais pourquoi on ne pourrait pas les respecter ? Quelle est la loi qu'on ne peut pas respecter ?
Bah, c'est parfois dans la vie, c'est on va faire un petit truc et qu'on ne va même pas s'en apercevoir que ça va pas être, que ça va être contre la loi.
Oui, alors c'est des fois sans conséquence. Donc, en général, quand c'est sans conséquence, c'est rarement puni par une amende. Mais on ne peut pas dire qu'on ne peut pas respecter les lois. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc à partir du moment où on doit la connaître, on doit la respecter. Même pour les petites choses. Parce que si on se dit, oh, ben, ça, ce n'est pas important, je ne respecte pas, pourquoi dans 10 ans, vous ne vous direz pas, ben, ça, finalement, ce n'est pas très important non plus. Et de fil en aiguille, on ne respectera plus rien. Donc il faut savoir respecter toutes les lois. C'est ça, être citoyen aussi. C'est se dire, même si je ne suis pas d'accord, même si je trouve que ça ne sert à rien, même si je trouve que ce n'est pas grave, ben, la loi, elle est là, et la loi, je dois la respecter. Pour que tout le monde fasse les choses de la même façon. Pour qu'on ne soit pas arrivé à se dire... Vous, par exemple, vous allez vous dire, ben, ça, je trouve que ce n'est pas important, puis votre voisin, il va dire, ben, si, c'est important. Et sur un autre sujet, il va dire, ben, pour moi, ça, par contre, ça ne l'est pas. On a des différences d'opinion les uns les autres, et c'est pour ça que les lois existent, pour qu'il y ait un cadre, et que dans la vie, on ne fasse pas justement... ce qu'on juge bien ou pas bien, puisqu'on n'a pas la même perception des choses chacun. Mais on doit respecter la loi, quelle qu'elle soit, même si on la trouve injuste. Et si on la trouve injuste, on peut se dire, j'irai voter pour quelqu'un qui est plus en adéquation avec mes idées à moi, qui fera peut-être une loi que je trouverai plus adéquate à mes idées. Donc être citoyen, ça va être ça aussi.
Si tout le monde respectait les lois, tout ce qui est niveau de force de l'ordre et tout ça, il serait beaucoup moins présent et...
On n'aurait plus besoin d'eux, c'est ça ?
En gros, oui.
Oui, on juste peut rêver d'un jour où on n'aura plus besoin des forces de l'ordre, oui. Mais...
Je ne pense pas que ça arrive tout de suite, même moi, dans 100 ans et
voilà,
tout ça.
Je ne pense pas que ce soit possible, parce que si on respecte les lois, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des forces de l'ordre qui sont là pour nous les faire respecter. Si un jour on nous disait, il n'y a plus personne pour vous surveiller, vous feriez n'importe quoi.
Mais de toute façon, on aura toujours besoin des forces de l'ordre parce qu'il y aura toujours une personne qui va transgresser au détriment de la loi. Donc, enfin, on peut pas imaginer le monde ou la France sans forces de l'ordre.
Justement, parce que si on nous met des lois, c'est bien parce qu'il y a des gens qui les mettent et s'il y a personne qui la fait respecter, les lois ne servent plus à rien s'il y a personne pour les faire respecter. Donc, il faut.
Si on respectait toutes les lois, bah, il n'y aurait plus de gendarmes, il n'y aurait plus de police, il n'y aurait plus de prison.
Oui, est-ce que ça serait un monde rêvé ? On ne sait pas, parce que de toute façon, moi, je pense que c'est surtout idéaliste. Mais on peut espérer qu'il y ait moins de délits, surtout dans les délits graves, en tout cas.
Mais il y aurait toujours besoin de police ou gendarmes, quelque chose comme ça, par exemple, s'il y a un accident sur la route pour la sécurité et tout ça ?
Oui, parce que les gendarmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas là que pour mettre des amendes.
Oui, donc ce n'est pas qu'en rapport avec la loi.
Ils sont là pour vous protéger, ils sont là aussi pour vous aider dans certaines situations difficiles. Là, on a une gendarmerie de proximité qui se met en place et qui va venir voir les habitants pour leur demander s'ils rencontrent des problèmes avec leurs voisins, par exemple. On peut avoir, je vais vous donner un exemple bénin, le voisin, il a un chien qui aboie toute la nuit, par exemple. c'est pas très grave en soi. On va se dire, son chien, il aboie, il peut pas empêcher son chien d'aboyer. Sauf que si ça embête trop le voisin, il va appeler le gendarme et le gendarme va venir en disant, ben, on va essayer de trouver une solution. On n'est pas obligé de mettre des amendes tout de suite. On va essayer de trouver des solutions amiables pour essayer de bien vivre ensemble. Le but, c'est ça, c'est d'essayer de bien vivre ensemble. Et la gendarmerie peut être là pour ça aussi.
Beaucoup n'aiment pas les forces de l'ordre, mais en fait, ils les aiment pas parce qu'ils font respecter la loi et que, en fait, ils font respecter ce que tout le monde devrait faire.
Oui.
Alors que du coup, bah.
Alors les gendarmes, quand ils arrivent devant chez vous et puis qu'ils vous disent, je vais vous mettre une amende parce que vous avez fait un truc qui n'est pas autorisé, forcément, vous ne l'aimez pas. Par contre, le jour où vous allez avoir un accident et qui va être là, qui va vous réconforter, qui va vous emmener, qui va vous accompagner. Là, vous allez lui dire, ah ben dis donc, qu'est-ce qu'ils ont été gentils avec moi, heureusement qu'ils étaient là. Mais la seule chose qui va rester dans votre mémoire, c'est le jour où il vous aura collé une amende. Donc, il faut se rappeler aussi que ces gens-là sont là pour vous aider, dans un premier temps, et pour vous aider, ils sont quelquefois obligés de punir celui d'à côté qui vous agresse. Donc, quand on est du côté de celui qui est puni, on n'est pas content. Quand on est du côté de celui qui est aidé, on se dit, bah oui, heureusement qu'ils sont là. Et heureusement qu'ils sont là. Et on parle de la gendarmerie, mais ça peut être d'autres personnes aussi.
Oui, parce qu'aussi, il faut quand même avoir la réflexion qu'ils nous protègent quand même. Parce que, par exemple, juste aux attentats, ils nous protègent quand même des attentats. Ils font beaucoup de choses. Ouais. Donc, on trouve qu'ils sont pas bien, mais ils sont quand même là.
Ils sont pas bien dans certaines situations.
Oui, mais
voilà, ils sont bien dans d'autres. Et...
Si on réfléchit bien, ils sont quand même bien dans les situations. Parce qu'ils nous font prendre en... Ils nous font... prendre conscience qu'on a fait une bêtise. Par exemple, juste un excès de vitesse.
Oui, ils vous en font prendre conscience. Voilà. Mais le jour où ils vous punissent, vous n'êtes pas forcément ravi non plus. C'est logique. Mais à chacun d'en tirer une leçon et de se dire, bah, finalement, ils n'avaient pas tort.
Parole des jeunes, Radio Campus. Parole des jeunes.
Parole de jeunes sur Radio Campus 88.3.
Vous allez vous rassembler et puis vous allez réfléchir. Voilà, on a une idée, comment on construit. Et si on construit un projet.
Et si on n'a pas d'idée, on en discute.
Ben bien sûr,
on pourrait faire c'est pour notre école. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se rassembler.
Voilà, une très bonne idée. Et bien sûr, vous avez énormément de moments, plutôt que d'être sur vos portables, vous rassembler le soir. Vous allez. Heureusement, on y est. Et le soir, vous rassemblez et vous dites, voilà, 3 ou 4, on a une idée. Maintenant, comment on construit?
Faut qu'on essaye. Alors, voilà. Par exemple, ce soir,
vous essayez ce soir.
Les jeunes de l'AMF ont par rapport à une autre interview avec la maire d'Acou réfléchi la dernière fois à des actions à mettre en place dans le cadre d'une association de jeunes qui pourrait se former ici. Et très justement, ils ont dit, voilà, il y a une école à côté, on pourrait organiser au moment de Pâques une chasse aux œufs. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait et je vais les laisser en parler parce que je trouve que c'est une belle initiative qui est toute bête, mais qui en même temps est très jolie. Et voilà, avec des petites choses comme ça, on peut améliorer le quotidien de tout le monde. Alors, je leur laisse en parler puisque c'est eux qui ont été à l'initiative de cette action.
Alors, on a commencé par vouloir faire ce projet, par une discussion avec le maire, et puis après, on a discuté entre nous. Puis après, on l'a monté un peu tous ensemble, et puis voilà. Alors, on a commencé par organiser notre journée, voir ce qu'on allait faire avec les enfants, comment on allait faire, et qui allait faire quoi. Donc... on a eu l'idée de faire deux groupes et donc qu'il y allait avoir un groupe pendant ce temps qu'un groupe cherche des petites figurines pour gagner des chocolats à la fin. L'autre groupe va faire des masques en lapin et en forme de lapin. Après, on a organisé un petit goûter, donc on va préparer des gâteaux. Ben, on va leur proposer un petit goûter. Alors, les figurines, c'est notre monitrice, Madame Passa, qui les a ramenées. On a les chocolats qui ont été achetés, c'est la directrice qui a acheté tous les petits chocolats. Après, nous, on les a emballés individuellement. On a fait des petits sachets. Et après, on a contacté l'école pour avoir une date. Et c'est les moniteurs qui ont contacté l'école. Et pour avoir une date et une heure pour trouver dans le planning.
Et puis bah ça se fait demain du coup à 13h30 jusqu'à 15h30 et
On attend que ça se passe bien, que la classe de CE2 d'Acou en ressorte joyeux, qu'ils ont aimé la chasse aux œufs, les petits masques en forme de lapin et notre goûter tous ensemble, parce que on va être avec eux. Comme ça, on sera avec eux pendant qu'ils goûteront. J'espère qu'ils aimeront revenir à la MFR pour faire une activité avec nous. Ça a été difficile de répartir toutes les tâches à tout le monde parce que on est nombreux. Du coup, fallait que tout le monde ait une tâche. Et du coup, c'était compliqué. Surtout que c'est une classe de 28 élèves. Du coup, il y a beaucoup d'enfants et il faut les surveiller pour pas qu'ils fassent de bêtises.
Allez, on va faire un tour de table où chacun va expliquer la cause pour laquelle il serait prêt à s'engager. Et on commence avec Flavie.
Si je devais m'engager dans une cause, ce serait contre la pollution parce que quand on sort dans les rues, on voit beaucoup souvent des déchets par terre. Plus on avance dans le temps et plus on détériore notre planète parce que y a trop de déchets partout par terre qui traînent.
Moi, si je devrais m'engager dans une cause, ça serait d'aider les enfants qui n'ont pas leur place dans les classes parce que souvent il y a toujours un enfant dans une classe qui est rejeté de la classe et que j'aimerais bien aider ces enfants-là parce que voilà, ça me tient vraiment à cœur.
Si je devais m'engager dans une cause, ça serait pour un sport et ça serait le tennis. Parce que moi, avant, dans l'époque, je faisais du tennis pendant 3 ans dans mon village, Pithiviers-le-Vieil. Et en fait, ça donnait un peu de la vie au village et tout. Donc c'était assez sympa. Tous les samedis, il y avait des tournois et du coup on rencontrait d'autres personnes qui faisaient du tennis de d'autres villes ou villages et c'était une belle expérience et voilà quoi.
Si je devais m'engager dans une association, ce serait peut-être pour les enfants en difficulté dans leur scolarité car je pense qu'il y en a beaucoup et qu'ils ne disent pas par honte et je pense qu'il n'y a pas assez de personnes pour les aider dans leur vie.
Si je devais m'engager dans une cause associative, ça serait sur les enfants maltraités. J'aimerais bien les aider de sortir de ce problème-là parce que je pense que niveau mentalement et physiquement, ça doit être dur à vivre et dans les années à suivre, doit être compliqué pour eux. Donc, pouvoir les aider dans cette vie. Aller suivre avec des psychanalystes, psychologues, essayer de faire des activités pour essayer de se libérer de ça et puis d'essayer de rassembler les morceaux de leur vie et d'essayer de s'en sortir.
Peut-être vous demander à tous, pour vous, vous m'avez demandé ce que c'était que d'être citoyen, mais pour vous, c'est quoi être citoyen ? Avant notre intervention, pour vous, c'était quoi être citoyen ? Vous avez peut-être changé un petit peu d'avis après notre débat, mais comment vous voyez, vous, la citoyenneté à votre niveau, dans votre quotidien ?
Pour moi, être citoyen, c'est surtout avoir des échanges avec des personnes. Parce que si on n'a que nos connaissances, on ne va pas aller bien loin. Alors que si on échange nos connaissances, on peut aller beaucoup plus loin. Et surtout, d'être à l'école, c'est obligatoire, justement, pour avoir des connaissances sur qu'est-ce que c'est la citoyenneté pour notre pays, pour notre futur. Du coup, pour moi, être citoyen, c'est ça.
Oui, c'est déjà un bon début. C'est pas uniquement ça, parce que ça, c'est apprendre. C'est prendre la connaissance vis-à-vis des autres. Mais après, être citoyen, c'est aussi être acteur de ce qu'on a appris. C'est dire, j'ai appris des choses, mais je vais les mettre en œuvre. Donc ça, il faut vous dire que ce que vous apprenez à l'école, ce que vous apprenez autour d'une table, je vais y prendre des idées et puis je vais me dire, pourquoi pas. Donc allons-y. Quelqu'un d'autre veut répondre sur la citoyenneté ? Est-ce que vous avez peur, par exemple, quelquefois, de vous sentir citoyen, de dire « moi, je ferais bien des choses, mais je ne voudrais pas qu'on se moque de moi ». Parce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Vous pouvez vous dire « bah oui, moi, je ramasserais bien, par exemple, le papier qui est par terre, mais mes copains, ils vont se foutre de moi, ils vont dire « ouais, t'as vu, tu ramasses ». Est-ce que ça peut vous arriver, des choses comme ça, de vous dire « j'ai peur du langage des autres, j'ai peur du regard des autres » ?
Bah oui, comme tout le monde, on a tous peur du regard des autres. Oui. On fait très attention à comment on nous regarde et on veut garder notre l'image que les autres ont de nous.
Oui, alors même si cette image doit être négative ?
Bah oui, même si cette image doit être négative.
Et le problème, il est là. On en débattait tout à l'heure, c'est que il faut faire attention à ne pas vouloir trop ressembler aux autres, à ne pas vouloir trop être comme un mouton, à se dire tout le monde fait comme ça, je fais comme ça. Il faut peut-être se dire, bah, si moi je fais autrement, un jour c'est peut-être moi qu'on va suivre. Ça aussi c'est être citoyen, c'est se dire j'emmène les autres vers quelque chose de bien plutôt que de suivre quelqu'un vers quelque chose de mal. Il faut avoir sa personnalité, son caractère et quelquefois savoir oser. C'est mon avis en tout cas. Voilà. Je ne dis pas que vous n'êtes pas forcément obligé de le partager, mais à 18 ans on ne partage pas forcément les mêmes avis que quand on a 40 ou 60.
Comme hier on a discuté avec... Madame Passa, dans les collèges où ils sont tous habillés pareil, ils ont les mêmes doudounes, ils ont les mêmes chaussures. Et bah, en fait, plus on grandit, et, bah, c'est là qu'on voit comment dire...
Ça vous paraît ridicule ou ça vous paraît bien ?
Bah non, à notre âge maintenant, ça nous paraît ridicule. Enfin, moi, personnellement.
Oui, alors... Moi, j'ai vécu à une période où on allait dans les écoles avec une blouse, c'est-à-dire qu'on s'habillait comme on voulait, on n'en était pas encore à l'uniforme, c'était déjà dépassé, mais on mettait une blouse. C'est-à-dire que l'enfant soit un enfant de riche, de classe moyenne, ou de gens qui soient dans la pauvreté, même dans une pauvreté extrême, quand on avait une blouse par-dessus, tous les enfants se ressemblaient. C'est-à-dire qu'on pouvait se regarder, on ne savait pas si on venait d'une classe ou d'une autre. Il n'y avait pas de différence entre les enfants. Maintenant, il y a des différences. Et il y a des enfants qui se sentent obligés de s'habiller comme les autres, enfin des enfants, des jeunes, plus des jeunes que des enfants, qui se sentent obligés d'être dans le moule. Alors qu'on n'a pas toujours les moyens, les parents n'ont pas forcément les moyens de vous mettre dans le moule des autres. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens ou que vos parents n'ont pas les moyens que vous êtes moins que d'autres. Vous avez autant de capacités que les autres et je pense que l'uniforme, dans le sens général du terme, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça gomme les différences, apparentes en tout cas.
Donc l'argent est quand même, entre parenthèses, importante vis-à-vis
l'argent,
des personnes.
L'argent a toujours été un moteur de la société. Après, à nous de faire en sorte, surtout au niveau de la jeunesse, que ça ne soit pas quelque chose qui prime sur le reste.
C'est quand même tabou en France de parler de l'argent, un petit peu.
Je ne crois pas que ce soit tabou, mais je pense qu'il y a des différences entre les classes sociales qui font qu'on considère les personnes différemment selon qu'elles viennent d'une classe ou d'une autre. Et ça, ce sont des choses qu'il faudrait changer.
Ça veut dire regarder une personne, pas en fonction de ce qu'il a, mais de comment il est.
En fait, maintenant, on se fie souvent à la première apparence quand on voit la personne, mais on ne sait pas ce que la personne a dans la tête. Donc, on ne sait pas vraiment comment elle est la personne elle est. Il ne faut pas juger au premier regard, il faut juger après. Enfin, même pas, on ne juge pas. Les gens sont comme ils sont.
Alors, donc, je suis tout à fait d'accord. Dire qu'on ne juge pas, c'est difficile de rencontrer des gens et de ne pas se faire une opinion. Entre se faire une opinion et émettre un jugement, c'est un petit peu différent. Il ne faut pas juger quelqu'un en se disant, bah, tiens, celui-là, il est bien habillé, celui-là, il est moins bien habillé. Non, parce qu'après... vous allez vous sentir obligé justement de rentrer dans le moule et c'est là qu'il y a danger.
Surtout qu'il y a beaucoup de jalousie entre les jeunes.
Oui, mais on les crée nous-mêmes, les jalousies. Justement par cette différence qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire, ce qui se ressent beaucoup plus chez les jeunes filles que chez les jeunes hommes, enfin je pense, l'importance qu'il peut y avoir le matin de se dire « Ah ben, faut que je sois bien habillée, il faut que je fasse... que je me montre... mieux qu'une autre, est-ce que c'est ça le plus important dans la vie ? Est-ce que le matin, on doit se lever pour ça ou est-ce qu'on doit se lever pour autre chose ? Il y a des questions à se poser là-dessus.
Mais je pense qu'on on dit des choses là, mais même nous, on a peur de le faire parce que dans notre classe, on ne le fait pas.
Alors, vous avez peur de faire quoi ?
Bah, de quand on regarde la personne, bah, la première fois, de ne pas se fier aux apparences.
Alors, on se fie toujours un peu aux apparences, mais il ne faut pas juger. C'est pas parce qu'on se fait une opinion de quelqu'un qu'on a le droit de juger pour autant. Les gens, il faut apprendre à les connaître avant de les juger. Alors, c'est sûr que le premier regard amène toujours quelque chose. Il faut savoir aller au-delà, je pense.
On a tous nos propres opinions sur les personnes. Et après, souvent, bah, enfin, quand on est jeune, on se fie aux opinions des autres qu'ils ont sur cette personne-là. Ou, vous voyez, on mélange les opinions. Et après, c'est ça qui fait que bah, voilà, après, oui, les personnes, ils se sentent mal.
Oui, et c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'établissements scolaires. Y a des jeunes qui se trouvent beaucoup en difficulté à cause du regard des autres. Et au lieu de se liguer tous contre une personne, ben, est-ce qu'on ne peut pas être celui ou celle qui se dit ben, « moi, je vais aller la ramasser, moi, je vais aller l'aider, et moi, je vais faire en sorte que les différences se sentent moins ». Ça, ça serait un grand pas en avant aussi dans la citoyenneté. Parce qu'être citoyen, c'est ça aussi. C'est plein de petites choses qui font qu'on apprend à vivre ensemble et à bien vivre ensemble.
On n'a pas dit que bah, votre question, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen, bah, c'est respecter les lois.
Dans la première chose, oui, c'est ça.
C'est bah, pouvoir faire ce qu'on veut, mais avec les règles.
Voilà, faire ce qu'on veut dans la limite de ce qui est autorisé. Et dans la limite de ce que ça va provoquer chez les autres. Donc là où la liberté des uns par rapport à la liberté des autres.
Ça revient à ma phrase, la liberté s'arrête là où commence celle des autres en fait.
Voilà, exactement. Il faut toujours penser que nos actes sont répercutés sur d'autres personnes ou d'autres situations et que là il faut y faire attention. On n'est pas là pour blesser les gens, on est là pour faire des choses mais pas forcément pour blesser les autres.
Est-ce que toutes les lois sont correctes ? Bah, est-ce qu'ils sont faites pour être bien ou
parce Alors, elles sont faites au départ pour être bien, correctes et applicables. Après, on n'est pas forcément d'accord avec. Mais on a élu des gens qui ont réfléchi, qui n'ont pas pondu une loi comme ça tout seul. Il y a des débats, il y a des assemblées qui sont là pour ça. C'est débattu à plusieurs niveaux. Une loi, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des commissions, il y a des débats au Sénat, à la Chambre des députés. Et ça arrive après à une loi qui va être promulguée, mais elle ne se sera pas faite comme ça par la volonté d'une personne. Elle aura été étudiée et débattue bien avant. Donc normalement, elle doit être au plus juste, mais ce n'est pas pour autant qu'on la trouve bien. Et on n'est pas forcément d'accord avec toutes les lois. C'est pour ça qu'il y a des oppositions à tous les niveaux.
D'accord.
Nous voudrions vous remercier d'être venu débattre avec nous pour nous expliquer ce qu'était pour vous la citoyenneté. Donc merci de nous avoir accordé du temps pour ce débat.
Bah pour moi, c'était un plaisir, ce que je vous disais tout à l'heure, de participer dans une école qui est sur la commune et puis de pouvoir échanger avec des jeunes parce que même quand on est maire, on n'a pas souvent l'occasion d'échanger avec un groupe de jeunes d'une école. C'est peut-être dommage. Donc votre initiative, en tout cas, elle est très, très enrichissante, que ce soit pour vous, je l'espère, mais pour moi aussi, parce que ça me permet de connaître un petit peu l'opinion de jeunes de votre âge. Bon, au début, vous aviez un petit peu de mal à vous exprimer. Il y en a qui ont toujours un petit peu de mal. Mais au fur et à mesure du temps, ben, finalement, voilà, le débat s'installe un peu. J'espère qu'il continuera entre vous et que vous vous direz « Oui, c'est vrai qu'il y a des choses que je peux faire ou qu'on peut faire ensemble. » En tout cas, merci à vous de m'avoir reçue. Moi aussi, je suis assez contente d'être venue vous voir. Et j'espère que vous referez des débats avec d'autres personnalités qui seront là pour vous amener ben, peut-être des avis différents aussi. Merci à vous, en tout cas.
J'ai bien aimé parce qu'on peut écouter les idées des autres parce que c'est vrai que quand on parle... Quand on parle entre nous, on n'a pas forcément des discussions avec des idées comme ça, donc ça nous permet d'écouter les idées des autres.
J'ai bien aimé parce que on était tous autour de la table et qu'on a rarement des discussions tous ensemble groupées et qu'on a pu rencontrer quelques personnes et discuter d'un sujet qui nous rassemblait tous.
J'ai appris beaucoup de choses et c'est vrai qu'en fait quand on parle bah, du coup ça sort tout seul et franchement c'était vraiment une superbe expérience parce qu'on fait pas ça tous les jours.
Parole des jeunes, Radio Campus Parole des jeunes.
Parole de jeunes sur Radio Campus 88.3.